France Inter.
Hello.
Hello.
It's Paul McCartney.
I mean, I'm in awe of McCartney. He's got the gift for melody, he's got the rhythm, he can play any instrument.
Okay, thanks a lot.
Mr. Paul McCartney.
I just like writing songs, it's a hobby almost, you know.
Right, how are you feeling? Good?
Do you have any idea of how many songs you wrote?
I never counted.
Yes, all right. And here we go.
Aujourd'hui, nous nous embarquons pour un nouveau voyage dont la première étape va sans doute vous surprendre. Parce que la voix que vous vous apprêtez à entendre n'est sans doute pas celle à laquelle vous vous attendiez. Bien sûr, ce n'est pas la voix de Paul McCartney que vous venez d'entendre, mais celle d'un très jeune Mick Jagger, alors tout juste âgé de 20 ans. On était en novembre 1963 et cette brève chanson « I Wanna Be Your Man » était le second 45 tours single, si vous préférez, que venait de publier un tout jeune groupe de blues londonien, les Rolling Stones. Un enregistrement marqué par un solo du guitariste Brian Jones, que l'on présentait alors comme le leader du groupe, un musicien charismatique dont l'érudition en matière de blues égalait le purisme. Il avait plaqué, vous l'avez entendu, un solo à la guitare slide aux notes glissées dans le style sauvage d'un maître des années 50, Elmore James, qui était son modèle. Vous vous demandez, j'imagine, pourquoi j'entame par une chanson des Stones la série que je vais dès aujourd'hui consacrer au parcours artistique de Paul McCartney, un voyage qu'il a entamé il y a 60 ans déjà au sein des Beatles et qu'il n'a pas encore achevé. Eh bien parce que « I Wanna Be Your Man » que vous venez d'entendre est aussi étonnant que ça puisse paraître l'œuvre de Paul McCartney. Une chanson signée Lennon-McCartney que dans les faits, McCartney avait écrite de son côté. Il l'avait achevée avec John à toute vitesse, dans le studio même à Londres où les Rolling Stones répétaient. Les Stones n'écrivaient pas encore leurs propres chansons, ils reprenaient des titres de blues et de rhythm and blues. Ils étaient cependant à la recherche de quelque chose de commercial, tout en souhaitant bien sûr l'adapter à leur propre style, au son bien plus brutal. Alors on a trop souvent présenté ces deux groupes, les Beatles et les Stones, comme des rivaux, voire des ennemis. Trop souvent encore, de façon aussi superficielle que péremptoire, on a pu présenter leur style comme antinomique. Eh bien, je tenais à commencer par cette mise au point. Le premier succès commercial des Stones est une chanson des Beatles. Et ceux-ci la leur ont offerte parce que c'était leur pote. Mais il y a un autre point. Cette chanson n'est pas, c'est entendu, ce que McCartney a fait de meilleur, mais elle est représentative de ce qui est en lui le meilleur, je sais pas, mais le plus vivant, le rock'n'roll. Parce que là encore, on a trop souvent voulu voir en Paul McCartney le doux, le lénifiant, ça c'est un bon adjectif de critique de rock, lénifiant, le chanteur de charme, le tendre, le gentillet, entendez, le mièvre ou le gnangnan. Par opposition, évidemment, à John Lennon, le dur, le teigneux, le rebelle, le rocker, le vrai de vrai. Dans le livre de son ami Barry Miles, Many Years From Now, sous-titré en français « Les Beatles, les 60s et moi », Paul McCartney était bien obligé de reconnaître il y a 25 ans, en 1997, la persistance de ce préjugé, car c'en est un. Je cite McCartney lui-même. « Les gens supposent que John était le dur et moi le doux, si bien qu'après toutes ces années, j'ai fini par l'accepter. Mais Linda, hein, sa femme qu'il a perdue en 1998, m'a dit « En fait, tu es quelqu'un de dur, mais chez toi, ça n'apparaît pas à la surface. J'ai fini par l'apprendre, à force de vivre avec toi. » Et Paul d'ajouter « C'est vrai, je peux mordre. J'ai un côté dur. » Et d'ailleurs, Linda a ajouté, John avait un côté très doux aussi. À mon avis, conclut Paul, c'est une bien meilleure analyse que celle que font les gens en général. Alors aujourd'hui, pour entrer en matière, j'avais justement envie d'éclairer la face, sinon dure, mettons tranchante, de Paul McCartney. Alors je sais bien qu'on ne déracine pas les préjugés comme ça, et il y en a parmi vous que je ne parviendrai sûrement pas à convaincre. Mais enfin, l'avantage de la musique à la radio, cependant, c'est qu'elle ne s'accompagne pas d'images. Elle vous laisse libre de ressentir et d'imaginer. Alors oubliez l'image, les photos, les sourires et les pouces levés de Paul McCartney et ressentez et imaginez toute son énergie, sa frustration quelquefois et même, ça arrive, la violence qui pouvait être en lui. On va commencer par « I saw her standing there », c'est un des premiers classiques de Paul McCartney, la chanson inaugurale du premier album des Beatles, « Please, Please Me », sorti en mars 1963. Une chanson qui est l'œuvre du seul McCartney, qui raconte dans son très beau livre richement illustré de manuscrits et photos rares, qui s'appelle « Paroles et souvenirs » de 1956 à aujourd'hui, qu'il l'a fait entendre pour la première fois à son copain John Lennon dans le salon de chez son père, alors qu'il fumait littéralement du thé dans une de ses pipes. Oui, du thé dans une pipe, il n'y a vraiment que des Anglais pour avoir des idées pareilles. Mais alors, les paroles de la chanson sont enracinées dans une vieille tradition de music hall. Un garçon invite une fille à danser et son cœur fait boum, bon, on a vite fait le tour. Mais la chanson est un rock'n'roll à la Chuck Berry et dans la voix de McCartney, eh bien, il y a tout le désir sexuel d'un garçon de 18 ou 20 ans. Chez les Beatles, chez McCartney, il faut entendre derrière les apparences, il suffit de fermer les yeux et c'est parti. 1, 2, 3, 4! See you.
know that she's no peasant.
Synthèse.
RTBF la première.
Nishka Sayas, Very Good Trip.
Difficile de ne pas penser à Ray Charles quand on entend Paul McCartney chanter en 1964 avec les Beatles She's a Woman. À propos de Ray Charles, il faut souligner la révélation qu'a constitué pour Paul McCartney la découverte en 1960 de sa célèbre chanson What Did I Say? Vous l'avez sûrement entendue au moins une fois dans votre vie, elle s'amorce sur un rythme de rumba avant de monter vers un final paroxystique durant lequel un cœur féminin, comme au gospel, répond aux cris, soupirs et ahannements du chanteur. Sauf que ça n'a rien de religieux, c'est très séculier et même carrément sexuel. Paul McCartney l'a raconté à son biographe Barry Miles, c'est lui qui a eu l'idée d'introduire cette chanson dans le répertoire des Beatles à leur début et d'en faire une sorte de numéro délirant. Il raconte qu'il se cachait sous une table et hurlait dans son micro. C'était en ces temps naissants où le groupe, bien avant sa célébrité, se produisait dans des boîtes sordides à Hambourg, en Allemagne. Alors l'évocation de cette période va me permettre d'évacuer un préjugé, un de plus, particulièrement infondé. Les Beatles, combien de fois l'ai-je lu, surtout entendu, étaient, dit-on, de jeunes garçons obéissants et bien peignés, sages et disciplinés. Mais rien, absolument rien, n'est plus éloigné de la réalité. En 1960, un impresario, comme on disait, entendait un manager, Alan Williams, avait expédié en Allemagne ces gamins que personne ne connaissait hors de Liverpool, précisément à Hambourg, la grande ville portuaire du nord de l'Allemagne de l'Ouest. Cet Alan Williams avait fait la connaissance d'un certain Bruno Koschmider, un ancien artiste de cirque, clown et cracheur de feu, qui gérait un circuit de boîtes de striptease et de cinéma porno dans le quartier chaud de St. Pauli à Hambourg. Koschmider s'était aperçu que la musique américaine enthousiasmait les jeunes hambourgeois et il avait estimé que ce serait bon pour lui d'avoir des groupes live pour son business, en particulier pour animer certaines de ces salles qui ne marchaient pas trop bien. Faire venir des musiciens des États-Unis, pas question, c'était hors de prix. Aucune solution en Allemagne, il n'y avait que des fanfares. La seule issue était donc de faire venir des musiciens d'Angleterre, ersatz du rock'n'roll américain à la mode. Les Beatles sont donc des gamins quand ils débarquent là. George Harrison, imaginez le Benjamin de la bande, n'a que 16 ans. Il commence à l'Indra, une salle totalement miteuse, une mini-scène, une micro-piste de danse, 4 tables à droite, 2 à gauche, 5 banquettes. On leur apprend qu'il va falloir jouer 7 jours sur 7 et donner 4 spectacles, de 8h30 du soir à 9h30, de 10 à 11, de 11h30 à minuit et demi, puis de 1h à 2h. Pour tenir, bah qu'est-ce qu'ils font? Ils boivent bière sur bière, ils prennent les stimulants à disposition, notamment un médicament qu'on appelle le Préludine, sorte de coupe-faim. Et pour dormir, Koschmider leur offre royalement les loges sans fenêtre d'un de ces théâtres porno. Et pour se laver, bah, y a les urinoirs. Alors les Beatles ne sont pas de gentils garçons polis, pas du tout. Ils rendent visite aux professionnels qui se montrent en vitrine à Saint Pauli, à l'équivalent de Pigalle, et attrapent leur première maladie vénérienne. On les voit sur scène manger des cuisses de poulet entre les chansons et s'invectiver. Encouragés par Koch Mider qui leur lance « Marchao, Englander, faites le show les Anglais », ils jouent à la bagarre, ils se jettent dans le public, ils se couchent sous les tables, comme Paul pendant « What I Say » qui s'étire pendant une heure. Le public, très remuant, est venu là pour expulser son énergie frustrée. Les garçons se bagarrent pour des filles, les marins britanniques présents à Hambourg se battent avec les locaux et les rockers hambourgeois en tenue de cuir noir à l'image de Marlon Brando dans le film L'équipée sauvage prennent pour cible leurs ennemis de classe, les Exis, ces étudiants beatniks en polo noir qui se réclament de Jean-Paul Sartre et de l'existentialisme. Les Beatles qui adoptent le cuir noir des rockers locaux attirent en fait les deux bandes, à la fois les prolétaires et les étudiants. L'ambiance est donc électrique et l'équipe de videurs, menée par un ancien boxeur professionnel, utilise souvent la matraque pour séparer les combattants. À Hambourg, où ils auront joué en tout plus de 800 heures, les Beatles deviendront des musiciens aguerris et même si ça fait un peu vieille école de dire ça, des hommes. Et le moins fou de la bande, eh bien ce n'est pas Paul.
We do it in the
chanson extraite du célèbre double blanc des Beatles paru à l'automne 1968, l'une et l'autre pratiquement improvisées au studio 2 de Abbey Road la nuit par Paul McCartney en présence de quelques amis dont Eric Clapton. Birthday qu'on vient d'entendre est construite sur le riff de Lucille de Little Richard, certainement le rocker qui a le plus inspiré McCartney, un riff de guitare qui rappelle justement McCartney dans le livre autobiographique dont je vous ai parlé, est également celui de Oh Pretty Woman, la chanson universellement connue de Roy Orbison. Les paroles de Birthday tiennent sur un demi-post-it. Quant à celle de Why Don't We Do It In The Road, qu'on a entendu juste avant, mettons que juste un quart de post-it pourrait suffire. C'est de loin la chanson, si on peut l'appeler ainsi, la plus sommaire qu'ait jamais écrite et interprétée Paul McCartney, même si elle est signée Lennon-McCartney, elle ne doit strictement rien au premier. Pourquoi on ne fait pas ça sur la route ? Personne ne va nous voir. Voilà, il le hurle plusieurs fois de suite pendant 1 minute 40. Comme l'écrit encore McCartney, que je continue à citer, c'est une des plus grandes forces du rock'n'roll. Ça peut être brut, vraiment, vraiment brut. Quelque chose de très simple, voire grossier, qui nous relie à quelque chose qui est au fond de nous. Peut-être même carrément à tout notre système nerveux. Alors c'est assez étonnant. John Lennon, le prétendument dur à cuire, l'insolent rebelle, n'a jamais écrit et interprété, que ce soit avec les Beatles ou en solo, de chansons ouvertement sexuelles comme le prétendument mièvre et fleur bleue Paul McCartney. Bien sûr, Lennon était souvent provocant, narquois, persifleur et sarcastique, mais une sorte de pudeur a toujours semblé l'arrêter face à l'évocation crue de la sexualité et de son inhérente sauvagerie. Autre manifestation de cette brutalité cachée propre à Paul McCartney, si souvent dissimulée derrière l'apparence lisse et souriante qu'on lui connaît. La chanson « Helter Skelter », un sommet du célèbre double blanc dont je vous parlais, donc paru à la fin de l'été 68, dont la sortie, je me rappelle, enfin j'étais très jeune mais je me rappelle, avait été un événement très commenté, analysé, décortiqué dans tous les sens, un peu, si vous voulez, comme aujourd'hui un nouveau jeu vidéo ou un nouveau smartphone. Helter Skelter, c'est une attraction foraine, je ne sais pas au juste comment on l'appelle chez nous, c'est un toboggan qui tourne en spirale autour d'une sorte de pylône et les paroles disent explicitement ça. Quand je me retrouve tout en bas, je remonte en haut du toboggan. Oui, explique McCartney, on est euphorique et puis après on se sent minable. Évidemment, ça fait référence également à certaines drogues qui procurent cet effet-là, exactement une montée joyeuse suivie d'une descente brutale, tout comme le sexe. McCartney avait suggéré aux autres Beatles de prendre au pied de la lettre ce que le guitariste des Who, Pete Townshend, avait déclaré à un journal à propos d'une chanson de son groupe qu'il voulait la plus brillante, la plus sale, la plus distordue possible. Et McCartney s'est dit « Relevons le défi, on va faire encore plus sale, encore plus brillant, encore plus distordu ». L'enregistrement a été pour les Beatles un épuisant marathon et d'ailleurs à la fin de la chanson, on entend le malheureux Ringo qui a de plus en plus de mal à garder le tempo hurler « J'ai des ampoules aux doigts !» Et le plus étonnant dans tout ça, c'est que Helter Skelter est une des principales sources du hard rock et même du heavy metal. Et ce sont des genres qui trouvent leur source chez les, entre guillemets, « gentils Beatles » et de toujours, entre guillemets, « mièvre McCartney ».
France Inter.
The cute Beatles.
RTBF La Première.
Yes, that's what they called you.
When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. We'll stop and a turn and a go for a ride. Till I get to the bottom and I see you again. Yeah. But do you, don't you want me to love you?
When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. And I stop and I turn and I go for a ride. And I get to the bottom and I see you again. Yeah, yeah, yeah. But do you, don't you want me to make you?
Yeah. Everybody had a hard year. Everybody had a good time. Everybody had a wet dream. Everybody saw the sunshine. Oh yeah.
Oh yeah.
Oh yeah. Oh yeah. Everybody had a good year. Everybody let the hair down. Everybody pulled the socks up.
Yeah.
Everybody put the foot down.
Oh yeah.
I've Got a Feeling, une chanson enregistrée en 1969 qu'on a pu redécouvrir à l'occasion d'une récente découverte archéologique tout à fait stupéfiante. On en a abondamment parlé. Le réalisateur Peter Jackson a eu le privilège d'assembler un montage il y a 2 ans à partir de dizaines d'heures de films montrant les Beatles au travail en studio, en continu, au début de l'année 1969. Un documentaire passionnant de près de 8 heures qu'a diffusé une célèbre plateforme de streaming sous le nom de Get Back. Le titre d'un album projeté puis abandonné par les Beatles, réassemblé après leur séparation, sous le titre de Let It Be en 1970. On les voit dans ce documentaire travailler dans une ambiance chaotique, traversée néanmoins par des moments de joie pure. Comme nombre de chansons des Beatles, I've Got a Feeling greffe 2 titres initialement écrits séparément par McCartney et Lennon. Les titres disent tout de l'approche différente de la vie qu'ils avaient l'un et l'autre. D'un côté, McCartney qui dit « I've got a feeling », c'est-à-dire « voilà, j'ai comme un sentiment », et de l'autre, Lennon qui dit « Everybody had a bad year », on a tous passé une mauvaise année. Et c'est la rencontre des deux qui fait la chanson, le positif et le négatif. Pendant 1 an ou 2, écrit McCartney, la vie de John a été vraiment compliquée. La fin de son mariage, l'éloignement de son fils Julian, des problèmes avec l'héroïne, alors problème, ça c'est moi qui souligne, le mot est extrêmement faible. Dans les images de 69, montées donc par Peter Jackson, on voit un Lennon passif, parfois complètement à l'ouest, en tout cas totalement démobilisé. Et il y a de la rage dans la voix de McCartney, rage qui est un des fils que je tente de tirer dans cette émission consacrée à la face rock'n'roll de Paul McCartney. Alors on le sait, après la fin des Beatles, Paul McCartney a été le seul des anciens Beatles à avoir le courage, il en fallait, de monter un autre groupe, Wings, qui publie son premier album, Wildlife, à la fin de l'année 1971, et il faut le préciser, sous les quolibets, je m'en souviens, comme si c'était hier. Il partait en 72, parcourir en van les routes du Royaume-Uni et Wings donnait des concerts impromptus sur des campus d'université. Voici un aperçu du son de Wings sur scène en 72, une espèce de rock'n'roll tribal qui n'a pas pris une ride. La chanson s'appelle The okay. Mess.
Listen, man, we're going to do one more song and then we're going to take a break. All right?
France Inter.
RTBF La Première.
Very Good Trip.
Nothing too much out of sight. Alors ça, c'est pas très connu. C'était interprété par Paul McCartney, vous l'avez reconnu, mais c'était en 2008. Il avait alors 66 ans et ce n'est pas attribué à Paul McCartney, mais à un mystérieux The Fireman, le pompier. Alors pourquoi se dissimulait-il derrière ce mystérieux pseudonyme ? En fait, c'est une curieuse histoire dont la genèse remonte au début des années 90. Dans ces années-là, McCartney, toujours en éveil à la recherche de nouveautés, rencontre un musicien qui se fait appeler Youth, hein, comme jeunesse, et ce Youth est le bassiste d'un groupe important de l'après-punk britannique, j'ai nommé Killing Joke. Et Youth est aussi un réalisateur artistique très réputé qui a travaillé avec pas mal de jeunes musiciens de techno du début des années 90, notamment The Orb. Alors Youth et McCartney décident de travailler ensemble dans ces années-là un album de musique de musique électronique, de trance, un peu tribal, donc sous le nom de The Fireman. Ils ont donc enregistré dans les années 90 deux albums instrumentaux avant de se retrouver en 2008 pour un album qui s'appelle Electric Arguments, où, surprise, figurent beaucoup de titres chantés. Et c'est Nothing Too Much Out of Sight que j'ai choisi, mais j'aurais pu aussi choisir un autre qui s'appelle Sing the Changes, que j'ai failli mettre, mais enfin, ça sera peut-être à une autre, pour une autre occasion. Alors, voici le plus surprenant qui va conclure notre exploration de la face rock'n'roll de Paul McCartney. C'est le titre Cut Me Some Slack, qu'il a interprété en décembre 2012. Sur la scène du Madison Square Garden de New York, il s'agissait d'un concert qui était destiné à lever des fonds pour les victimes de l'ouragan Sandy, le plus meurtrier du nouveau siècle, qui avait fait plus de 200 victimes en passant à travers 8 pays. McCartney s'était associé pour la circonstance avec les membres survivants du groupe Nirvana. Il y avait Dave Grohl à la batterie, Chris Novoselic à la basse et aussi Pat Smear, guitariste d'appoint du trio sur scène. La chanson Cut Me Some Slack avait été improvisée à l'origine par les quatre hommes pour les besoins d'un documentaire qui s'appelait Sound City, que Dave Grohl avait réalisé au sujet d'un studio légendaire de Los Angeles. We'll be right back. C'est tout pour aujourd'hui. Dans le prochain épisode, j'aborderai un autre volet. Ce sera Paul McCartney, l'enfant savant de la mélodie. Merci beaucoup à Josépha Lebrun qui a réalisé l'émission. C'était Mathieu Bérény à la technique. Merci également à Romain Couturier à la discothèque de Radio France.
Let's rock. À bientôt.